RMC, 13h-14h, c'est le grand show de l'info, Éric Brunet.
Sept syndicats de Pôle emploi ont appelé à une grève unitaire de 24 heures aujourd'hui. Bon, selon eux, les 46 000 salariés de Pôle emploi n'arrivent plus à faire face, il manque de moyens.
Notre grève est faite aussi pour améliorer les conditions de travail des demandeurs d'emploi. Au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas les moyens de leur apporter ce service.
Au lieu d'aller se plaindre et de faire des journées aujourd'hui qui n'ont rien arrangé du tout, ben je pense qu'il ferait mieux au contraire de travailler pour le service public.
Mais quand je vois que le jour où moi j'y suis allé, j'ai eu l'impression que c'était moi, ancien directeur d'entreprise d'intérim, qui faisait passer l'entretien aux deux conseillères que j'avais devant moi et qui ne savaient pas ce que c'était des KCS, qui ne savaient pas ce que c'était un électroméchanisme, parce que c'était un petit peu ma branche.
Si on se bat aujourd'hui, c'est bien évidemment pour les demandeurs d'emploi en premier. Il y a nos conditions de travail qui sont certes pas bonnes, mais ça c'est en interne. Au niveau de la demandeur d'emploi, il est en droit d'attendre un service cohérent et actuellement on ne peut pas le faire.
Bon, on se dit tout. Moi, l'argument du manque de moyens, ça m'a toujours un peu agacé. On dit toujours qu'on manque de moyens quand on n'y arrive pas. Et si ces moyens supplémentaires arrivaient, est-ce que l'usine à gaz Pôle emploi fonctionnerait mieux? En tout cas, les demandeurs d'emploi sont de plus en plus nombreux à dénoncer la mauvaise organisation et surtout la grande inutilité de ce dispositif. Alors, je voudrais qu'on écoute Stéphane Guillou. Bien sûr, ce que je viens de dire va le hérisser. Stéphane Guillou, il est délégué général national CGT à Pôle emploi et il est en ce moment, je crois, dans les rues de Paris. Où êtes-vous là, Stéphane?
Alors, je suis avenue de la République, j'attends mes camarades, je suis parti en avance pour être tranquille et m'isoler, pour pouvoir dialoguer.
Pourquoi est-ce que vous êtes dans la rue aujourd'hui?
Les conditions de travail, c'est une chose, les effectifs, mais on ne demande pas des effectifs pour des effectifs, on demande également des formations. Ce que j'ai entendu dans les appréciations qui étaient portées sur Pôle emploi par certains, mais je les rejoins, le paradoxe, c'est même le directeur d'ancienne agence intérim, je le rejoins, on met nos collègues dans des situations de réception sans avoir eu les formations adéquates et nécessaires pour pouvoir traiter la demande des demandeurs d'emploi. C'est une réalité.
Et s'il y avait ces formations que vous demandez, vous pensez qu'on arrêterait d'entendre toujours ces demandeurs d'emploi insatisfaits?
Je pense qu'au tout départ, c'est une aberration cette fusion. Je vais m'en expliquer très vite. Je me souviens que le candidat au présidentiel, c'était M. Sarkozy en 2007, avait eu pour deux leitmotivs à cette création. Un, le conseiller unique. Deux, plus de proximité. Dans la réalité, qu'est-ce qui advient aujourd'hui? Il n'y aura jamais de conseiller unique. Pourquoi? Pour une raison simple, c'est que c'est deux métiers qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, d'un côté, qu'il fallait 6 mois de formation aux uns et aux autres pour avoir le métier manquant. Donc on ne pouvait pas extraire plus de 5% de l'effectif global tous les 6 mois pour les former au métier qui leur manquait. Donc sans ça, ça faisait 10% de la formation par an. Et donc il fallait 10 ans pour que tout le monde accède au métier qui lui manquait. Ouais. Donc déjà, ça c'était une promesse qui ne pouvait pas tenir et qui ne pouvait pas être tenue. La deuxième, c'était plus de proximité. Il y avait 650 implantations à CELIC, à peu près 950 implantations à NPE, ce qui faisait un global de 1600 sites de réception. Alors, partiel pour la plupart, il est vrai, mais toujours est-il qu'il y avait une proximité, un maillage territorial supérieur à celui qu'on nous propose aujourd'hui.
On a aujourd'hui, oui.
Alors, on nous propose 900 sites. Excusez-moi, mais 900 sites, on revient aussi au nombre de sites de la NPE. On nous fait des grandes surfaces du chômage.
À côté de vous, enfin pas à côté de vous, dans l'avenue de la République pour cette manifestation, on entendait d'ailleurs juste derrière vous les manifestants qui s'organisaient, mais à côté de vous, je veux dire, dans cet échange, c'est Dominique Tian. Dominique Tian est député des Bouches-du-Rhône et il est rapporteur à l'Assemblée nationale du texte de la création de Pôle emploi. Donc c'est vraiment la personne indiquée pour échanger avec nous aujourd'hui. Dominique Tian, vous pensez plutôt que ce dispositif qui est décrié par tout le monde, hein, on connaît le système à la française, un peu râleur, vous dites, mais arrêtez, ça marche.
Mais oui, ça marche, oui, ça marche. Le principe de fusion n'a jamais été contesté par personne à l'époque, puisque même, je crois que le Parti Socialiste l'avait préconisé dans la campagne présidentielle. En tout cas, l'UMP, on avait fait un thème de campagne. Bien sûr que c'est quelque chose d'intelligent de fusionner la NPE et les ACEDIC, c'est par définition mettre plus de moyens et plus de cohérence dans l'accueil des chômeurs. Il faut comprendre les gens, par exemple, des ACEDIC qui recevaient des gens, en leur disant, bah, écoutez, voilà, vous allez être indemnisé pour le chômage, mais en plus, ils n'étaient pas capables de répondre à la question qui venait juste ensuite, comment je vais retrouver du boulot? De fusionner ces gens ces personnes. C'est quand même 48 000 personnes. 48 000 personnes qui sont au service des demandeurs d'emploi. Mmh. Et on essaie de regrouper sur des sites uniques. Je vois pas si ça a de la cohérence. Au moins, on fait quelque chose de très intelligent. Tous les autres pays d'Europe le font depuis longtemps.
Je voudrais qu'on écoute Pierre. Il a 54 ans. Il travaille dans l'Isère et il est agent Pôle emploi. Pierre, vous avez le cafard.
Oui, alors... Oui, le cafard, c'est un peu le cafard que me transmettent mes collègues de Pôle emploi. Hein. Mmh. Moi, je rejoins ce que dit Stéphane Guillou. Monsieur Tan, il nous vend une idée, c'est bien gentil, mais dans la réalité des choses, moi, je peux vous dire qu'il y a des agents qui sont, depuis 2 ans, depuis la création de Pôle emploi, qui font de l'accueil, qui n'ont eu quasiment aucune formation, et qui craquent les uns après les autres. Vous savez combien il y a de tentatives de suicide à Pôle emploi depuis 2009?
Je vous écoute.
Il y en a eu 30. Dans la même période, à France Télécom, plus de 170 000 salariés, il y en a eu 72.
C'est vrai, Stéphane Guillou, sur le plan national, vous qui êtes délégué général CGT, oui. Pôle emploi, vous confirmez que ça va se produire.
Il y a des tentatives de suicide, malheureusement, des suicides avérés. Il y en a eu un, là. En plus. Et quand vous voyez un collègue qui doit se suicider dans les toilettes, ou tente de se suicider dans les toilettes, et qu'il écrit sur le mur harcèlement, avec son propre sang, ça interpelle quand même.
Dominique Tian, j'ai l'impression qu'on n'est pas sur un drame, comment dire, organisationnel, mais davantage sur quelque chose de culturel. Finalement, si c'était vraiment qu'un problème de formation, il faut former.
Mais bien sûr qu'il faut former. Mais d'ailleurs, il y a des moyens considérables qui sont mis dans la formation. Vous comprenez bien que la priorité de Pôle emploi...
C'est pas ce qu'ils disent.
Il pourrait y avoir une grève pour d'autres raisons. Par exemple, on pourrait vous dire, écoutez, les salariés ont perdu sur le plan financier. Personne ne vous le dit, puisque, au contraire, la convention collective qui va être adoptée, ont marqué une hausse des salaires extrêmement importante, notamment pour les agents de la NPE. Mais ça, personne ne le dit. Le gouvernement a fait un gros effort pour aligner les salaires assédiques à NPE qui étaient différents. Donc, c'est du pouvoir d'achat qui a été gagné par les 48 000 personnes. Bon. Sur le plan d'organisation, le fait d'être dans des sites uniques, c'est quand même un confort de travail, parce qu'il y a des gens qui sont spécialisés dans les deux métiers, c'est-à-dire l'indemnisation et ensuite la recherche d'emploi. C'est quand même entre des conditions de travail, des choses qui sont évidemment beaucoup plus efficaces. Bon, ensuite, qu'il y ait besoin de formation, il y a quand même des grands besoins de formation qui ont été faits un petit peu partout, et je vous signale quand même que le mouvement de grève ne sera suivi qu'au mieux à 50%. Donc, c'est la moitié des employés de Pôle emploi n'ont pas éprouvé le besoin de se mettre en grève. Bon.
Excusez-moi, mais il y a un
syndicat professionnel qui exploite, parce qu'il y en a qui ne font pas grève, parce qu'ils ont fait le choix de ne pas être en grève, c'est tout.
Non, il y a 20% de précaires aussi.
Qu'est-ce que vous dites, Stéphane Guillou, vous dites?
Il y a 20% de précaires pour Pôle emploi qui ne font pas grève.
Ils ne font pas grève, oui, effectivement.
C'est pas rien, c'est un cinquième de l'effectif. Moi, je suis issu de l'assurance chômage, nous avions 2% de précaires. À la NPE, ils en avaient 13. Pôle emploi, on arrive à 20. Vous vous rendez compte on utilise des précaires pour gérer la situation de précaire, qu'on ne forme pas, bien entendu, puisque c'est pas un investissement de long terme. Et c'est ceux qu'on met en première ligne pour dissuader les demandeurs d'emploi de se déplacer dans les...
Alors, juste une chose. Je vais vous repasser la parole, Dominique Tian. Moi, je suis un amoureux de l'efficience et de l'efficacité. Je trouve que c'est tellement dommage. On a 46, 47 000 salariés en France de Pôle emploi qui sont là 48 000, voilà, pour mettre de l'huile dans les rapports entre ces gens qui sont des demandeurs d'emploi et puis des entreprises qui pourraient les accueillir, à leur donner du travail, on met sur pied des dispositifs magnifiques. Personne ne doute que c'était utile, et voire même peut-être indispensable de fusionner les acédiques. Mais ce que je trouve dommage, c'est comment on n'est pas parvenu, c'est pas une pathologie française, ça, un petit peu. On met sur place des usines à gaz formidables, et on n'arrive pas à les faire fonctionner. Il y a des malaises, il y a une souffrance au travail qui fait qu'aujourd'hui, ce dispositif, il n'est pas efficient. Donc, avant de vous redonner la parole, justement, Dominique Tian, je voulais la passer à Jérémy. Jérémy, c'est intéressant, c'est un auditeur du Nord, il a 28 ans, et lui, il est chef d'entreprise, et il a trouvé, comment dire, des dérivatifs, hein, il passe plus par Pôle emploi pour embaucher, et c'est dommage, Jérémy.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, Jacques. Je voulais effectivement soulever un problème, parce qu'effectivement, moi, maintenant, à l'heure actuelle, je ne passe plus par Pôle emploi, justement, donc pour mes embauches ou mes futures embauches, parce qu'il m'est arrivé un petit couac avec le Pôle emploi. Alors, que je vous explique, j'ai pris quelqu'un, en stage au niveau du Pôle emploi, parce qu'on m'avait annoncé qu'ensuite, j'avais le droit à des subventions suite au plan de cohésion sociale. Et il s'avère que le jour où je l'ai embauché suite à la fin de son stage, on m'a annoncé qu'il n'y avait plus de subvention.
Ah oui.
Donc, bah, un petit peu surpris parce que effectivement, bah, la personne, moi, j'avais déjà pris l'engagement de l'embaucher, mais les conditions avantageuses qui étaient pour un chef d'entreprise, justement, dans un objectif de pouvoir faire évoluer la société, ma société, s'est retrouvé un petit peu.
Ah oui. Bah oui, j'imagine. On va écouter tout de suite Mourad. Lui a été au chômage pendant une douzaine de mois. Il a 27 ans. Bonjour Mourad.
Oui, bonjour Eric Bonnet.
Qu'est-ce qui vous est arrivé?
Moi je vous explique ma situation. Donc ça faisait 5 ans, j'étais chauffeur poids lourd, donc juste avec le permis poids lourd. Et donc la crise est venue, donc j'ai été au chômage, donc j'ai cherché un petit boulot. Mais bon, pas quelque chose de sérieux en même temps. Donc je voulais revenir dans le transport, mais bon, comme on dit, faut le super lourd pour conduire les gros camions, quoi. Donc bon, j'ai demandé à Pôle emploi un financement. Bon, ben rien du tout. Donc j'ai plus de 25 ans, je croyais le plan jeune et ils ne prenaient pas en compte. Mmh. Donc bon, ils s'en foutaient entre guillemets, on ne convoquait pas, c'est moi qui allais, donc je demandais des rendez-vous avec mon conseiller. Donc quand j'y allais, je gagnais rien. Donc qu'est-ce qu'ils ont trouvé à faire, vous savez, ils demandent à Manpower ou je sais pas quoi là, de s'occuper de moi, quoi, de me trouver une formation. Donc j'y suis allé pendant 2 mois. Pareil, bon, c'est juste dû la présence, de l'acte de présence. On fait des CV, c'est tout, quoi. Après, donc j'ai décidé de, comme il dit Jean-Jacques Bourdin, de m'en sortir par moi-même. Mmh. J'ai financé moi-même mon super lourd. Donc 2 400 €. Moi, j'ai 27 ans, 3 enfants. C'est beaucoup, mais bon, pour moi, c'est...
Vous avez financé vous-même votre permis super lourd?
Ah ouais, j'ai financé moi-même mon permis, parce que bon...
Et vous en êtes où aujourd'hui, Mourad?
J'ai retrouvé un emploi, en fait. J'ai retrouvé un emploi depuis deux semaines, donc je voulais remercier aussi mon emploi qui m'a fait confiance.
D'accord.
Donc, un emploi stable. Bon. Et comme je dis aux gens, essayez d'arrêter de dire, de penser que les acédiques vont vous permettre de vous en sortir. C'est pas vrai, bougez-vous par vous-même et...
Aide-toi, le ciel t'aidera.
Comment? Oui.
Bravo, même Mourad.
Même s'il faut financer vous-même, moi, bon, 2 400, c'est énorme, mais bon, c'est payé dans 10 mois, j'ai fini d'y payer, je me suis arrangé pour y payer en plusieurs fois, et bon, voilà, quoi, après, j'ai un CDI, j'ai un boulot, et j'ai plus besoin de Pôle emploi, ni
bon,
de
100 euros
pour pouvoir vivre, quoi.
Merci beaucoup, Mourad. Dominique Tian, député des Bouches-du-Rhône, rapporteur à l'Assemblée nationale du texte sur la création de Pôle emploi. C'est vrai qu'il y a souvent des gens qui sont mécontents, qui appellent, on le sait bien, et qu'il doit y avoir des gens qui ont trouvé du travail grâce à Pôle emploi. Mais quand même, c'est décevant d'entendre ça, non?
L'année dernière, 232 600 personnes ont retrouvé un emploi grâce à Pôle emploi. Mmh. Bon, c'est un chiffre qui compte. 230 000 personnes ont trouvé un emploi grâce à Pôle emploi. Bon, c'est des chiffres qui parlent également. Il faut pas. Il y a des gens qui sont en situation d'échec professionnel, bien sûr. À côté de ça, il y a aussi des centaines de milliers de postes qui ne sont pas pourvus en France et où les gens cherchent un certain nombre de métiers à pouvoir embaucher. Ils ne peuvent pas le faire. Bon, mais je crois que Pôle emploi, même s'il connaît des difficultés liées à la montée du chômage et la crise internationale qui existe, c'est quand même un service relativement efficace. Et je vous redonne le chiffre, 230 000 personnes ont trouvé un emploi.
Comment faire pour être meilleur demain?
Je prenais un exemple. Je regardais à Marseille. À Marseille, je regardais un bureau qui s'appelle le bureau des Chartreux. Vous êtes reçu en 10 minutes par 2 conseillers. Voilà, en 10 minutes, 2 conseillers. C'est le journaliste de la Provence qui est allé comme ça, qui a dit, voilà, il a été reçu en 10 minutes, l'accueil a été parfait, il a rencontré 2 personnes qui l'ont renseigné, et il a été pris en main immédiatement. Est-ce que c'est déjà mieux d'être reçu en 10 minutes par 2 conseillers que de faire la queue pendant 2 heures dans 2 bureaux différents, suite à la NCE, c'est dit comme c'était le cas auparavant.
Là-dessus.
Donc, à l'évidence, contrairement à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'un net progrès d'avoir regroupé NPE et ACDIC.
Vous voulez mon avis? Vous voulez mon avis? Je suis d'accord avec vous sur cette question-là. Stéphane, Guillou, ouais, ça va, les gens arrivent un petit peu, là. Les gens arrivent, boulevard de la République, à Paris.
Parce que je me suis éloigné assez longtemps à l'avance pour pouvoir vous parler. Je voulais vous dire, je ne rejoins pas Monsieur Thion disait avant que on recevait ces allocations à la CEDIC, les droits étaient notifiés, après on allait à NPE. C'est vrai. Mais aujourd'hui on fait le contraire. C'est-à-dire qu'on remet en liquidation, en étude, a posteriori, à la réception, c'est ça l'intention. L'étude des droits, et on commence par donner aux demandeurs d'emploi les obligations qui sont les siennes. Et toutes les notifications de droits partent en différé. C'est-à-dire une semaine ou 10 jours après la réception. L'allocataire est toujours dans l'inconnu sur ce que seront les moyens qui lui permettront de vivre. Vous imaginez bien que quelqu'un qui est toujours dans cet inconnu-là, psychologiquement, n'est pas disponible pour entendre tous les conseils et les recommandations et les obligations qu'on peut lui signifier lors de cet entretien-là. La première angoisse quand vous parlez de votre travail, c'est de connaître votre revenu de substitution, de savoir à partir de quand ça va partir, quel montant, quelle durée. Et aujourd'hui,
monsieur Tian, vous dites des mensonges, je me le regrette de le dire à l'antenne comme ça, les droits sont notifiés ultérieurement. Quasiment tous les cas.
Dominique Tian.
Quand il y avait les deux, eh ben, au moins les gens savaient ce qu'étaient leurs droits, même s'ils devaient après aller à la NPE.
Rapidement, monsieur le député.
Oui. Non, c'est faux, c'est complètement faux. Au contraire,
excusez-moi, je suis...
Attendez, on écoute Dominique Tian, s'il vous plaît.
Ils sont extrêmement contents de la façon dont ils obtiennent des renseignements beaucoup plus rapidement que par le passé. Et je le dis franchement, pour les demandeurs d'emploi, il s'agit vraiment... En plus, il ne faut pas oublier quand même que c'est le suivi personnalisé qui compte. On a un suivi personnalisé des agents de Pôle emploi. À peu près un agent de Pôle emploi suit en moyenne une centaine de dossiers. C'est encore trop puisque l'objectif, c'est 1 pour 60. Les 1%, ça permet déjà d'avoir un accueil plutôt personnalisé parce que les gens ne viennent pas tous les jours et toutes les heures. Donc, il y a quand même le suivi personnalisé qui est un grand axe de la réforme et parfaitement réalisé. Bon, je crois que les projets ont été faits aussi sur les plateformes de renseignement téléphonique dont Pôle emploi a admis qu'elles étaient trop dépersonnalisées. Donc, il y a plus de personnalisation. Quant au fait que Pôle emploi ait annoncé qu'un certain nombre de contrats à durée déterminée ne seraient pas renouvelés, c'est tout simplement parce qu'ils avaient été autorisés par le gouvernement de manière transitoire et qu'on ne peut pas reprocher au gouvernement de faire des efforts de gestion parce qu'avec 48 000 personnes, le gouvernement estime que c'est largement suffisant pour répondre aux besoins.
Merci Dominique Tian, merci Stéphane Guillou, je vous souhaite une bonne manifestation et je souhaite surtout par-dessus tout que ce dispositif devienne vraiment une bombe d'efficacité. Merci à tous. Nous allons maintenant parler d'économie car figurez-vous que les Français se fichent d'économie et qu'on est dans le peloton de queue de l'Europe sur ces questions.
RMC, parce que rien n'est tranché, parce que rien n'est évident, il fallait le grand show de l'info. Éric Brunet.
13h27 sur RMC, n'hésitez surtout pas à m'appeler au 3216, surtout sur ce sujet de l'économie qui nous met un petit peu le nez là où il faut pas, c'est-à-dire dans notre nullité. Vous savez que les Français se fichent de l'économie, ils sont nuls, voilà. Ils préfèrent les joutes politiques, peut-être qu'ils sont moins austères que l'économie. En tout cas, le sondage TNS Sofres, réalisé en marge des journées de l'économie qui se déroulent jusqu'à jeudi à Lyon, eh bien il est accablant. Le niveau moyen des personnes interrogées atteint péniblement la note de 8,3 sur 20, et quand on interroge les deuxièmes et les troisièmes cycles, eh bien c'est guère mieux, on atteint un petit 10,5 sur 20. En gros, par exemple, les deux tiers des Français ignorent ce qu'est un système de décote pour les retraites, alors qu'on a manifesté autour de ça pendant des semaines et des semaines, c'est assez subjugant. Et puis, ils ignorent également, pour prendre des cas concrets, qu'on voit dans ce sondage, que l'Allemagne est notre premier partenaire commercial. Pour ne rien vous cacher, je suis pas tellement meilleur que la moyenne des Français. Je vais faire acte d'humilité. J'ai un certain nombre d'invités qui vont rebondir, et puis vous pouvez également nous appeler, vous aussi, sur le 3216, mais je voudrais passer tout de suite la parole à Olivier Vial. Olivier Vial, il est président de l'UNI, vous savez, c'est un syndicat plutôt de droite, d'ailleurs, qu'on a plutôt vu manifester contre les grèves au moment des mouvements étudiants. Olivier, bonjour.
Bonjour.
Je voulais vous poser la question, c'est comment l'enseignement de l'économie, vous étiez en fac d'économie il n'y a pas bien longtemps, c'est comment
On reproche souvent aux jeunes Français d'être pessimistes. D'ailleurs, ils ont une vision de l'entreprise qui est très négative. Ils sont à 75%, ils veulent être fonctionnaires. Et ben, quand on lit un manuel d'économie, on sait qu'on va pas devenir beaucoup plus optimiste. Parce que les manuels d'économie sont faits de telle manière qu'effectivement, on a l'impression que c'est une chape de plomb très pessimiste. Et on a une vision de l'entreprise où on parle pas du tout d'innovation, mais on parle de conflits sociaux. L'entreprise, c'est pas le lieu de création de richesse, c'est le lieu d'expression des syndicats. De la même façon, il y a des exemples qui sont très frappants, mais on a des chapitres, par exemple, dans les manuels d'économie au lycée, le chapitre sur le marché de l'emploi, il est illustré d'une image qui est une photo d'un marché aux esclaves. Ça donne quand même une vision très idéologique de ce qu'est l'enseignement de l'économie, et on comprend pourquoi finalement les jeunes Français se détournent de cet enseignement de l'économie, ou ont une vision très caricaturale de la situation dans laquelle ils vivent.
Augustin Landier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes prof d'économie à l'école d'économie de Toulouse et vous êtes co-auteur de La société translucide aux éditions Fayard. Je sais que ça c'est un sujet qui vous taraude. Vous pensez vraiment qu'il y a une maladie française, une pathologie française sur l'économie, qu'on n'aime pas ça ?
Alors oui, effectivement, alors on a un problème pour se réconcilier avec le capitalisme, et on peut se demander vraiment d'où ça vient. Est-ce que ça vient de très loin, avec des facteurs culturels, religieux, vous savez, la fameuse distinction entre le catholicisme et les protestants, qui eux auraient une attitude beaucoup plus détachée vis-à-vis des sujets d'argent. Moi je pense que une dimension qu'il faut rappeler, c'est que ça date essentiellement de l'après-guerre. C'est-à-dire que c'est vraiment après la guerre qu'on a délégué à l'État le soin de planifier pour nous et que finalement, toutes ces questions qui relèvent de qu'est-ce que c'est qu'un budget pour une famille, comment, qu'est-ce que c'est qu'un taux d'intérêt à long terme, comment placer notre épargne, tous ces sujets, on a pris l'habitude de les déléguer à l'État et c'est vraiment un phénomène qui date de l'après-guerre. Avant la guerre, en fait, les petits paysans français étaient aussi boursicoteurs que leurs voisins anglais ou leur contrepartie américaine.
Il y a un bouquin absolument extraordinaire qui est fait par une dame qui s'appelle Suzanne Berger et qui s'appelle La première mondialisation. C'était à l'époque de Napoléon III et au 19e siècle. Le petit bourgeois français, mais vraiment le tout petit bourgeois français qui a pas beaucoup d'argent, était un virtuose de la bourse à l'époque, il y a plus de 120 ans, ouais. bien supérieur aux Anglais et aux Américains. C'est quand même extraordinaire. Il y avait beaucoup d'argent français qui était placé partout en Argentine, dans les mines, etc. Et puis donc, on investissait, on gagnait d'ailleurs de l'argent à cette époque-là, et maintenant, on est devenu nul sur ces questions-là.
Exactement. Mais si vous voulez, je pense qu'il faut une approche de l'économie, dans la manière dont on l'enseigne, qui revienne aux choses pratiques. C'est-à-dire qu'il faut enseigner ça comme le code de la route, si vous voulez. Qu'est-ce que c'est qu'un bilan? Qu'est-ce que c'est l'actif, le passif d'une entreprise? Comment est-ce qu'on manage un projet? Comment planifier un budget? Ce sont ces choses-là qu'il faut communiquer et enseigner, à la fois dans l'enseignement dans les lycées, peut-être que c'est les profs de maths, après tout, qui devraient enseigner ces choses-là, mais aussi dans les familles, si vous voulez. Ça fait partie du bagage qu'on veut communiquer à ses enfants. Comment planifier les choses, comment parler, comment comptabiliser les choses d'argent.
Ah ben quand on a...
Effectivement, c'est tout à fait ce qu'il faut. D'ailleurs, le programme a été révisé pour le programme du lycée. On essaye d'avoir des choses plus concrètes sur les taux d'intérêt, sur comment on fait un budget familial, etc. Et on s'aperçoit qu'il y a une vraie fronde des syndicats de professeurs. Les syndicats de professeurs, aujourd'hui, appellent à ne pas appliquer le programme parce qu'ils le trouvent justement trop concret. Et ils veulent reparler de la précarité, de grands sujets qui sont des sujets qui ne sont pas les bases même de l'économie, mais qui sont déjà des débats politiques et politiciens qui sont malheureusement, qui transforment beaucoup les cours d'économie en café du commerce et pas du tout dans des choses comme on peut en avoir dans tous les autres pays européens où on a des cours très concrets sur des notions de base. Qu'est-ce qu'un taux d'intérêt? Qu'est-ce qu'un budget? Qu'est-ce qu'un taux, un rendement pour une entreprise? Des choses qui sont utiles tous les jours, alors que les grands débats café du commerce, on a bien d'autres endroits que les salles de classe pour les mener.
Ouais, alors Isabelle Knokmeo, merci d'être avec nous. Vous êtes déléguée générale du Conseil pour la diffusion de la culture économique au ministère de l'économie. Et vous allez commenter avec nous ce sondage que vous avez initié, je crois, et qui met, je vais pas dire qu'il met le feu aux poudres, mais qui nous rappelle qu'on n'est pas des virtuoses sur ces questions de l'économie. Hein. Bonjour Isabelle.
Bonjour. Absolument, qu'on a encore des progrès à faire. Enfin, il ne fait que conforter et confirmer des résultats qu'on avait déjà par ailleurs. Je pense quand même qu'il faut pas transformer les Français en leur donner un bonnet d'âne en économie, parce que y a quand même un intérêt croissant pour l'économie aujourd'hui, notamment chez les jeunes. On a un test, un sondage qui s'étale, évidemment, qui prend en compte toutes les catégories de population, donc c'est un peu un raccourci, donc il faut faire attention aussi de ne pas jeter la pierre comme ça en nous déclarant mauvais en économie. En plus, on n'a pas non plus de véritable comparaison internationale sur le niveau, même européenne, sur le niveau comparé des connaissances en économie des Français et des autres pays.
Ouais.
Ce qu'on constate, c'est que malgré tout, on a encore des marges de progrès et qu'on a des connaissances lacunaires. J'entendais l'un de des participants dire qu'on manque effectivement de connaissances concrètes. Je crois qu'il a raison. Aujourd'hui, on s'enflamme sur des débats et sans avoir pris la précaution, chacun à notre niveau, d'avoir quand même été vérifier ce qu'on connaît du débat, des réalités du débat, les connaissances précises. Et voilà, du coup, ça donne effectivement des notions de base qui sont mal appréhendées.
Alors,
voilà.
Lucien, merci.
Oui.
Isabelle, restez avec nous. Lucien est avec nous, vous habitez les Yvelines, et vous dites qu'il y a vraiment un problème presque culturel à l'école et à l'université. Hein. Bonjour.
Oui, tout à fait. Oui, bonjour. Tout à fait. Je pense que quand on regarde l'économie, l'enseignement de l'économie, il est très vite politisé. Autrement dit, il arrive très vite à un débat de type idéologique. Ça, c'est pour les universités. Alors, il échappe un peu à ce débat les écoles de commerce où l'économie est enseignée de façon pratique et de façon pragmatique pour les carrières des jeunes qui le suivent. Mais de façon générale, vous n'avez qu'à regarder. La plupart des économistes qui font foi aujourd'hui, une grande partie en tout cas, sont d'essence marxiste et s'en revendiquent.
Mais alors, Lucien, c'est extrêmement curieux parce que en préparant cette émission, j'ai quand même vu ça, je l'ai lu sur Internet, j'ai vérifié parce que ça paraît complètement incroyable d'enseigner aujourd'hui aux étudiants l'économie à travers le prisme marxiste ou en tout cas pratiquement qu'avec ça. Et j'étais sidéré de découvrir que c'était pas totalement faux. C'est-à-dire que la pensée marxiste, vrai. La pensée marxiste dans l'économie, c'est toujours vrai.
Et puis là, je vais vous dire une deuxième chose, alors dans un domaine un tout petit peu décalé, mais dès qu'on parle d'économie à la radio, et bien tout de suite, le meneur de jeu à votre place dit « Non, c'est trop compliqué, pas de chiffres.
Ouais. »
Ce qui fait qu'on a fait un débat, par exemple, sur les retraites pendant 6 mois, je n'ai pas entendu une seule fois un chiffre, à part 32 milliards de déficit. C'est tout ce qu'on dit. Et si on avait pris des cas concrets en disant « aux gens, vous partez à tel âge, vous avez tel truc, etc. » Mais je trouve que c'est extraordinaire parce que dès que ça devient avec un chiffre, un mot, une règle de trois, tout le monde tout de suite dit « Oh, j'ai besoin d'un cachet d'aspirine. » Mais non, mais rien n'est, c'est pas enseigné, c'est pas divulgué. Comment voulez-vous qu'après les gens ils aient le minimum de culture?
Ouais, c'est vrai qu'on a peu de culture économique. Je me souviens, il y a 2 ou 3 ans, d'une interview de Bernard-Henri Lévy qui dit que, en substance, que l'économie est une discipline seconde qui est assujettie à la politique. Que ce qui est important, c'est la politique et que l'économie, c'est une discipline secondaire. Je me souviens, ça m'avait marqué.
C'est la vision de sa vie qui vit encore au 19e siècle, c'est tout.
Mais en un sens, si vous voulez, après tout, si les gens veulent rebaptiser l'économie gestion ou planification de carrière, que sais-je, pourquoi pas, hein. S'il s'agit juste finalement d'un désaccord sur le mot, on peut rebaptiser ça.
Oui, bien sûr.
Un budget ou...
Mais si vous voulez une anecdote, juste une anecdote, j'étais dans une école grande école d'ingénieurs, élève, il y a 40 ans, ou presque 35 ans, eh bien, on avait un cours de gestion et d'optimisation des résultats dans une entreprise, on avait des exercices là-dessus. Eh bien, les élèves ont fait grève, parce que c'était pas bien d'optimiser ses résultats quand on est né une entreprise.
Ouais. Ouais. Olivier Vial, vous qui êtes ancien étudiant, vous n'êtes pas bien vieux, mais vous êtes sorti de la fac, président de l'UNI, vous avez eu des profs d'économie marxistes
Ah ben j'ai eu la chance effectivement d'avoir même les derniers 100% marxistes sans avoir mis une goutte de keynésianisme dans leur doctrine. Effectivement j'ai fait mon économie à Grenoble où on a le capital de Marx posé sur la table pendant 4 ans.
Mais je vous crois pas, vous exagérez. C'est pas vrai.
Je n'exagère pas. C'est effectivement alors. C'est peut-être enrichissant parce que sur le style c'est effectivement très intéressant, mais on s'aperçoit clairement que c'est une vision très datée de l'économie. Et d'ailleurs il y a un rapport de l'Académie des sciences qui a été publié en 2008. L'Académie des sciences a demandé à 5 grands économistes étrangers de juger nos programmes et tous ont eu la même réaction. Nos programmes datent d'il y a plus de 30 ans. L'évolution de l'économie et l'évolution des travaux économiques n'ont pas été pris en compte et on est resté bloqué dans ce qu'on connaissait des travaux des années 70 avec toutes les avancées de Bourdieu, qui n'est pas un économiste mais malheureusement Bourdieu était plus enseigné au lycée comme économiste que des économistes comme Adam Smith ou des libéraux.
Les libéraux en France, oui, mais non, ça c'est un gros mot là. Nicolas, vous avez 38 ans, vous êtes parisien. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Alors, vous me parlez de l'éducation nationale là.
Bah oui, parce que moi je fais partie un peu de ces millions de Français qui ne sont pas du tout intéressés par l'économie. Moi, à aucun moment de mon cursus scolaire, on m'a intéressé à l'économie. Je trouve ça rébarbatif, ennuyeux, incompréhensible et on n'y voit pas l'intérêt. Il a fallu que j'attende de me marier avec une femme qui faisait de l'économie, qui a fait des études d'économie, qui m'explique un peu comment ça marche. Et je me suis rendu compte en fait que autour de moi, personne n'aimait l'économie, tout le monde s'en fichait un peu. Mais par contre, à partir du moment où il y a eu un peu l'ouverture en bourse pour les personnes qui voulaient placer un peu d'argent, tout le monde s'est mis à jouer en bourse. Mais à côté de ça, personne ne s'intéressait encore à l'économie. Donc moi, je m'y intéresse toujours pas plus que ça, mais j'essaie d'y faire plus attention parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui nous manque d'un point de vue éducation. Moi, j'ai jamais eu accès à l'économie. C'est-à-dire qu'on nous laisse loin de ça. Si on n'a pas fait des études d'économie ou des études qui visent des choses plus générales, Sciences Po, bon, on se dit, bon, à quoi ça me sert? De toute façon, c'est eux qui gèrent, c'est l'État, c'est les banques, c'est les entreprises. Moi, je suis là, il y a que mon argent qui m'intéresse, mais l'économie, c'est aussi mon argent. Et je trouve qu'à ce niveau-là, on nous intéresse pas. C'est pas c'est pas ludique. À aucun moment du cursus scolaire, on nous intéresse à jouer avec l'économie.
Mais Nicolas, mais je vous ressemble tellement. Moi, je suis exactement dans le même état d'esprit que vous. J'ai essayé de m'y intéresser depuis peu. Bon, mais il y aurait pas un gène français, une espèce de truc dans notre ADN qui fait que l'économie nous exalte pas? Moi, je suis comme vous.
Mais non, écoutez, on a les champions du monde de la finance mathématique.
C'est Augustin Landier, là?
Absolument, oui. On peut dire que 70% des ingénieurs financiers qui s'exportent dans les hedge funds new-yorkais et londoniens sont des Français. Mmh. On produit l'essentiel, si vous voulez, actuellement, des mathématiciens de la finance.
Mmh. Et puis, il y a des grands auteurs français en économie qui sont malheureusement pas enseignés en France. Mais Frédéric Bastiat, par exemple, est un Français qui, aujourd'hui, fait école aux États-Unis. Était un des principaux inspirations, par exemple, de Ronald Reagan. Mmh. Économiste fabuleux n'est pas du tout enseigné en France et c'est pourtant une école française qui au XVIIIe siècle a été très importante. 18e-19e siècle, l'école française était très importante.
Alors ça c'est un truc extraordinaire, c'est que j'ai découvert en préparant cet échange avec vous que il y avait des économistes français qui étaient les pères de la pensée libérale. Les pères de la pensée libérale sont des Français. C'est vrai ou c'est pas vrai, ça?
Mais bien sûr, la Révolution française est assise sur une très grande peur de la centralisation et sur l'idée qu'il faut se méfier un petit peu de la concentration des pouvoirs. Mmh. Et donc c'est vraiment un paradoxe qu'on en soit revenu. Et encore une fois, je pense que c'est vraiment l'après-guerre, l'après-seconde guerre mondiale qui est l'origine de cela. C'est vraiment un paradoxe qu'on ait accepté un tel niveau de centralisation et de déléguer finalement totalement le management de l'économie aux politiques.
Eh ben, j'ai adoré cette discussion. Merci Isabelle, merci Augustin Landier, merci Olivier Vial, merci à Lucien et à Nicolas qui viennent de m'appeler au 3216 sur RMC parce que j'ai appris plein de choses là aujourd'hui sur cette petite maladie quand même, hein, cette petite maladie française que vous attachez tous à guérir. RMC, il est 13h42. Nous allons maintenant parler de Gaulle et de ce qu'il en reste chez les plus jeunes d'entre nous.
Parce que sur RMC, toutes les opinions ont la parole. 13h, 14h, c'est le grand show de l'info. Éric Brunet.
Voilà, et on va parler immédiatement du général de Gaulle. Vous savez, chacun a son de Gaulle préféré, celui du 18 juin 40, celui de 1944. Vous vous souvenez, Paris martyrisé, Paris humilié, mais Paris libéré, celui plus ambigu du « je vous ai compris » pendant la guerre d'Algérie. Moi, mon de Gaulle préféré, c'est celui du 17 mai 40. Ah, le colonel de Gaulle à cette époque a 49 ans, c'est la campagne de France, les panzers de Rommel et de Guderian déferlent sur la France. C'est une pilée militaire terrible. En quelques jours, l'armée française est défaite. Toute l'armée, il n'y a qu'un seul homme qui résistait, qu'un seul homme qui va emporter une victoire. C'est ce colonel de Gaulle de 49 ans. Il est inconnu. Il a quelques chars Renault, des chars qui ont un blindage très fin. Et ces chars vont tenir tête une journée entière au Panzer de Rommel. L'homme du 18 juin 40 a d'abord été l'homme du 17 mai 40. J'adore ce de Gaulle qui est déjà au milieu des millions, centaines de milliers de militaires français, qui est déjà le seul à se distinguer. Extraordinaire. En tout cas, on va s'interroger, se demander ce qui reste aujourd'hui du général de Gaulle. Est-ce que les jeunes pensent que de Gaulle est un joueur de foot, hein, ou simplement le nom d'un arrêt de bus ou d'une rue? J'ai demandé à deux jeunes d'avoir la gentillesse de venir nous en parler. Ces jeunes sont Lauriane Degnaud, la très jolie présidente des jeunes socialistes, et Benjamin Lancard, qui est président des jeunes populaires, donc là c'est l'UMP, qui est aussi conseiller régional d'Île-de-France. Lauriane Degnaud d'abord, pour les socialistes. Faut quand même reconnaître qu'aujourd'hui, l'image de Gaulle, c'est une espèce de plébiscite. Tout le monde l'aime de gauche à droite et de droite à gauche, même les socialistes. Et pourtant, en 69, faut pas oublier qu'on l'a mis dehors de façon assez abrupte, le général, et que la gauche, à l'époque, l'aimait pas du tout.
Oui, bonjour, merci
bonjour,
pour l'invitation. Moi j'ai réfléchi un petit peu à la question, puis j'ai fait un petit sondage sur Facebook et Twitter pour demander aux jeunes justement ce que eux ils retenaient aujourd'hui du général de Gaulle. Moi ce que j'en retiens personnellement, c'est d'abord qu'il n'y a pas un de Gaulle finalement qui s'est comporté politiquement de la même manière tout au long de sa vie. Il y a bien évidemment le de Gaulle de 1940, celui de 45 qui réussit à rassembler la France, le peuple de France, autour du Conseil national de la résistance a emmené la France vers un nouvel avenir de progrès social avec les retraites, la sécurité sociale. Et puis, bien évidemment, il y a le De Gaulle vieillissant de 60 à 68 qui, je crois, ne comprend plus les évolutions de la société, la volonté de liberté, de libération et puis d'égalité qui se recroqueville sur un comportement conservateur et réactionnaire. Donc moi, je préfère le De Gaulle de 45. Et d'après ce que m'ont dit les jeunes sur Facebook et sur Twitter, eux, ce qu'ils retiennent quand même, c'est le De Gaulle de la résistance, cet homme qui n'a pas peur d'aller seul contre tous parce qu'il croit profondément en quelque chose et que c'est le courage politique et les valeurs de la France et de la République française qui guident son action.
Donc vous, Lauriane, c'est le De Gaulle de 44-45, celui de la libération, celui, c'est l'homme du 18 juin qui a dit non et qui est parti tout seul à Londres en faisant un immense bras d'honneur à la France qui se rassemblait autour de Vichy. C'est celui-là qui vous intéresse le plus.
Oui, c'est celui-ci.
Benjamin Lancard, président des Jeunes Populaires, conseiller régional d'Île-de-France, je disais... bon, vous êtes le jeune de l'UMP, celui qui monte. C'est lequel, vous, votre De Gaulle préféré?
Moi, je pense qu'il y a une cohérence dans le parcours du général De Gaulle. En tout cas, il n'y a pas de tri à faire chez De Gaulle. Il y a tout simplement de l'admiration et le respect d'une personne qui fait aimer la France et qui nous rend fiers d'être français chaque jour et qui donne beaucoup de sens, même 40 ans plus tard, à ceux qui s'engagent en politique. Et vous savez, pour moi,
À l'UMP, on doit le connaître, le général De Gaulle, mais j'ai le sentiment que les jeunes Français n'en savent pas grand-chose, non?
Moi, je vais vous dire, De Gaulle, c'est trois choses. C'est un, l'indépendance de notre pays. Je pense que c'est quelque chose de formidable et dont on peut être fier. C'est
l'indépendance énergétique, le nucléaire,
oui, voilà,
etc.
C'est deux, une vision déjà d'un monde multipolaire, au fond, qui est aujourd'hui reprise, même toujours par la France, et la voix de la France est écoutée au Conseil de sécurité de l'ONU, elle est écoutée au G20, elle est écoutée quand le président français reçoit le président chinois. Et puis, la dernière chose, c'est que c'est quand même quelqu'un qui a mis de côté ses intérêts particuliers pour toujours favoriser l'intérêt général, en dépit de son âge difficile. Et au fond, quand en 69, il décide de partir, il reste fidèle à sa vision de l'intérêt général.
Moi, vous savez, mon De Gaulle préféré, je vais vous donner mon avis maintenant, c'est celui de 67 qui part au Québec. Il est au soir de sa vie et il veut pas abandonner ses 6 millions de Français au Québec qui sont un peu perdus dans un monde anglo-saxon et que la France a laissé tomber déjà depuis 2 ou 3 siècles. Et dit tant pis, il y va pour éviter d'être accueilli par les autorités canadiennes officielles anglophones. Et ben il y va en bateau sur le Colbert, je crois. Il arrive, alors il se cache un peu parce qu'il y a un cache-cache avec les autorités canadiennes. Puis il arrive à Montréal et là. Et là, c'est comme une rockstar, là.
Il fait gagner 50 ans au Québec.
Mais je crois qu'il pète les plombs parce que il est tellement subjugué émotionnellement par cette foule de Québécois que il arrache un micro au balcon de la mairie de Montréal. Il y a des milliers de personnes devant lui et écoutez la suite. Écoutez.
Vive le Québec! Vive le Québec libre! Vive le Canada français et vive la France!
Eh, ça vaut tous les concerts de rock, hein. C'est extraordinaire. Ça vous met pas la chair de poule, Lauriane, Degnaud?
Si, ça met la chair de poule, et puis on est fiers de ce général de Gaulle-là. Et puis moi, je pense que dans cette période-là de sa vie, c'est finalement, on retrouve là le De Gaulle qui n'a peur de rien, le De Gaulle qui va au fond de ses convictions et de son courage pour prôner plus de liberté, finalement, et la capacité d'un peuple à s'autodéterminer par lui-même. Et finalement, c'est un peu ce qu'il a permis aussi de faire aux Français, aux valeurs de la République française en 45. Moi, je préfère vraiment ce De Gaulle-là, celui qui est en capacité, y compris, de rassembler autour de lui, comme il l'a fait pour la question des retraites, de la sécurité sociale, parce qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le Conseil national de la résistance entoure le général de Gaulle. Et le général de Gaulle, il fait la réforme des retraites et de la sécurité sociale avec la gauche, avec le Parti communiste, dans la négociation sociale, avec les syndicats. C'est ce général de Gaulle-là qu'on respecte, celui qui a du courage et qui a su rassembler tous les Français sans essayer de les diviser.
Il a écrasé la famille social-démocrate et la famille socialiste en négociant de façon quasiment systématique avec le Parti communiste. Il a été, de ce point de vue-là, assez stratégique, puisque on disait même le golo-communisme. Dans les entreprises, il y avait la cogestion entre la CGT et les patrons. C'est-à-dire qu'il a un peu effacé la famille social-démocrate française.
C'est notre modèle économique. C'est vrai. Du capitalisme patriarcal. Ouais. C'est celui qu'on connaît aujourd'hui.
Christian, vous avez 48 ans, vous nous appelez du Puy-de-Dôme. Bonjour Christian.
Bonjour.
La France a changé, vous nous dites, hein. C'est plus la même équation maintenant, hein.
Bah oui, effectivement. Bon, ça fait toujours, je trouve, assez plaisir que de se rappeler effectivement la bonne époque de celle qui était celle de la France. Je dirais, on a toujours, d'ailleurs, chaque fois qu'on se retourne sur en arrière, on se souvient surtout des bons moments, mais un petit peu moins des moments les plus difficiles. Et donc, effectivement, on garde effectivement dans cette image de De Gaulle, cette image de l'homme effectivement qui nous a fait sortir de la guerre, qui nous a projeté dans le monde d'aujourd'hui aussi. Hein. C'est vrai que c'est un homme qui a porté un certain nombre d'idéaux hein, qui ont fondé nos valeurs de la République, il les a portés. Alors bien sûr, il continue, à mon avis, moi, de dégager toute cette valeur, je dirais, d'honnêteté, d'impartialité de l'État, cette idée d'intérêt général, c'est un petit peu ce qu'on ressent quand on parle de De Gaulle. On se souvient tous de qui payait ses notes de téléphone quand il téléphonait personnellement à l'Élysée. Donc
c'est ouais, bah ça, c'est
l'électricité aussi.
Et les pleins d'essence pour aller à Colombelles et Deux Églises, ça c'est, il payait lui-même son essence.
Voilà, donc c'est effectivement des choses qui sont restées un petit peu
originales,
je crois. Et donc c'est vrai que ça nous fait toujours plaisir de nous rappeler ça. Mais bon, De Gaulle aussi, c'était une autre France. C'était pas la France d'aujourd'hui. Mmh. C'était la France qui sortait de l'époque colonialisme. Mmh. C'était une France qui était partagée entre le bloc soviétique et puis le bloc américain. Donc c'était une France aussi qui était assez riche à l'époque. Aujourd'hui, l'équilibre du monde, il est complètement différent. On a les pays émergents qui arrivent très vite. Hein.
Ouais,
la Chine, il y a le Brésil, etc.
Et donc, c'est la fin des 30 glorieuses, surtout. Hein. C'est terminé, la prospérité, maintenant. On apprend ce que signifie se serrer la ceinture, et c'était pas le cas à l'époque de Gaulle. Hein.
On reste la cinquième puissance mondiale. Il ne faut pas non plus avoir
certes.
Honte. On est une grande puissance. Et moi, je trouve que c'est un beau
Benjamin
travail, d'ailleurs, que quand cette... En cette année 2010, ou 40 ans après la mort du général de Gaulle, les mémoires du général de Gaulle rentrent au programme de littérature au lycée. Je pense que c'est un beau symbole et que, comme vous posez la question, est-ce que les jeunes s'en souviennent, c'est toujours bien de s'en rappeler. Et en tout cas, je crois qu'une émission comme la vôtre permet justement de rappeler tout ce qu'il a fait. Et je crois que les héritiers de De Gaulle aujourd'hui, c'est ceux qui aiment la France, c'est ceux qui font le choix de l'intérêt général.
En tout cas, une chose est sûre, c'est pas vous qui détruisez les retraites, la sécurité sociale et tout l'héritage politique et méthodologique que nous a donné le général. Voilà. Et par ailleurs, quand Benjamin, je suis désolée de revenir sur ça parce que je trouve que tu as un culot énorme. Non, mais je parle de ça. Tu as un culot énorme
pour défendre
les mémoires du général de Gaulle alors que tu as dit dans un communiqué de presse il y a très récemment, tu as insulté la France en disant que Laval a fait des choses extraordinaires pour la France. Donc je ne comprends pas comment tu peux d'un côté défendre Laval qui a trahi les valeurs de la République française, qui a trahi la France dans son essence même, et d'un autre côté, te revendiquer les mémoires du général. Il faut faire des choix.
Je pense pas que vous ayez dit ça, Benjamin Lecor, c'est pas possible. C'est vrai.
Je peux laisser parler, parce que c'est... D'abord, d'une part, elle a mal lu, malheureusement, parce que moi, j'ai bien opposé, justement, quelqu'un qui a trahi.
Beaucoup de monde a du mal lire.
Je ne t'ai pas interrompu. Je l'ai opposé, justement, à la jeunesse de Guy Mocquet. Mais la vérité, c'est que j'ai choisi, justement, de ne pas polémiquer sur ce sujet. Moi, je trouve ça triste, comme à 20 ans, comme tu peux le faire, d'être politicard sur un jeu. J'aurais pu dire que Mitterrand avait parlé de coup d'État permanent en parlant de De Gaulle. Mmh. Et justement, j'ai choisi de pas polémiquer parce que je crois qu'on doit tous être héritiers de cette vision, eh bien justement, transpartisane et qui, au fond, rend fier d'être français. Je trouve dommage, en 2010, que tu cherches à polémiquer sur ce sujet-là.
Je n'ai pas interrompu, ça me montre
la politesse de ta vision de la politique.
Je sais ce que vous avez dit, Benjamin Lencard. Je viens de lire la dépêche sur mon ordinateur et vous avez dit du bien de la politique économique de Laval à l'époque bien avant 40, quand il était au gouvernement de la Troisième République. Oui, mais enfin bon, c'est pas très astucieux.
En politique, il y a des gens qui choisissent l'intérêt général, d'autres qui choisissent les politiques.
Bon, j'adore.
Je vois de Lauriane Degnaud.
Merci, Lauriane Degnaud. Merci, Benjamin Lencard. Moi, j'adore quand ça s'écharpe comme ça autour de grands débats républicains, comme quoi le gaullisme suggère et provoque encore des vraies prises de bec, comme on les aime ici dans cette émission. Merci à tous. On se retrouve demain à 13h pour un nouveau grand show de l'info. Merci, Lauriane Degnaud. Merci, Benjamin Lencard. Et bonjour, Brigitte Lahaye.
Bonjour, Eric. Est-ce que ça vous évoque quoi, ça? Plutôt un support érotique ou maternel?
Alors, le culte des saints, maternel non, érotique, oui. Oui. On va parler saints aujourd'hui?
On va parler saints.
Je peux rester dans le studio quelques minutes?
Il n'y a aucun problème. Véronique est déjà là, et moi aussi, et on a des saints, et on va, On va s'organiser pour que vous restiez.
Merci beaucoup. Dans quelques instants, Brigitte Lahaye, je tenais à vous dire que nous nous retrouvons demain à 14h. Ne manquez surtout pas de nous appeler sur le
32.
À 13h, je dis, 14h, c'est vous, oui. Oui, mais moi, désormais, je reste à 14h, Brigitte.
D'accord.
C'est pour ça que j'ai fait ce lapsus. Je souhaite m'installer plus durablement dans le studio dès que vous arrivez. Voilà, Véronique, il est 13h58. Et dans un instant, les informations.